plus moral et plus imbu de la doctrine des devoirs que les épicuriens, Zénon et tout le portique prescrivaient, en certains cas, le suicide aux stoïciens. Voici comment il raisonnait. L'homme diffère de la brute en ce qu'il dispose souverainement de sa personne. Ôtez-lui ce droit de vie et de mort sur lui-même, vous le rendez esclave des hommes et des événements. Ce droit de vie et de mort, bien reconnu, forme le contrepoids efficace de tous les maux naturels et sociaux. Ce même droit, conféré à l'homme sur son semblable, engendre toutes les tyrannies. La puissance de l'homme n'existe donc nulle part sans une liberté indéfinie dans ses actes. Faut-il échapper aux conséquences honteuses d'une faute irrémédiable? L'homme vulgaire boit la honte et vit. Le sage avale la ciguë et meurt. Faut-il disputer les restes de sa vie à la goutte qui broie les os, au cancer qui dévore la face? Le sage juge de l'instant opportun, congédie les charlatans, et dit un dernier adieu à ses amis qu'il attristait de sa présence. Tombé au pouvoir du tyran que l'on a combattu les armes à la main, que faire? L'acte de soumission est dressé. Il n'y a plus qu'à signer ou à tendre le cou. L'imbécile tend le cou, le lâche signe. Le sage finit par un dernier acte de liberté, il se frappe. Homme libre, s'écriait alors le stoïcien, sachez vous maintenir libre, libre de vos passions en les sacrifiant au devoir, libre de vos semblables en leur montrant le fer ou le poison qui vous met hors de leurs atteintes, libre de la destinée en fixant le point au-delà duquel vous ne lui laissez aucune prise sur vous, libre des préjugés, en ne les confondant pas avec les devoirs, libre de toutes les appréhensions animales, en sachant surmonter l'instinct grossier qui enchaîne à la vie tant de malheureux. Après avoir dégagé cette argumentation dans le fatras philosophique des anciens, je crus y imprimer une forme chrétienne, en la corroborant par les lois du libre arbitre que Dieu nous a données, afin de pouvoir nous juger un jour à son tribunal. Et je me disais, j'y plaiderai. Mais, monsieur, ces raisonnements me forcèrent de penser au lendemain de la mort, et je me trouvais aux prises avec mes anciennes croyances ébranlées. Tout alors devient grave dans la vie humaine, quand l'éternité pèse sur la plus légère de nos déterminations. Lorsque cette idée agit de toute sa puissance sur l'âme d'un homme et lui fait sentir en lui je ne sais quoi d'immense qui le met en contact avec l'infini, les choses changent étrangement. De ce point de vue, la vie est bien grande et bien petite. Le sentiment de mes fautes ne me fit point songer au ciel tant que j'eus des espérances sur la terre, tant que je trouvais des soulagements à mes maux dans quelques occupations sociales. Aimer, se vouer au bonheur d'une femme, être chef de famille, n'était-ce pas donner de nobles aliments à ce besoin d'expier mes fautes qui me poignaient? Cette tentative ayant échoué, n'était-ce pas encore une expiation que de se consacrer à un enfant? Mais quand, après ces deux efforts de mon âme, le dédain et la mort y eurent mis un deuil éternel, quand tous mes sentiments furent blessés à la fois, et que je n'aperçus plus rien ici-bas, je levai les yeux vers le ciel, et j'y rencontrai Dieu. Cependant, j'essayai de rendre la religion complice de ma mort. Je relus les évangiles, et ne vis aucun texte où le suicide fût interdit. Mais cette lecture me pénétra de la divine pensée du Sauveur des hommes. Certes, il n'y dit rien de l'immortalité de l'âme, mais il nous parle du beau royaume de son Père. Il ne nous défend aussi nulle part le parricide, mais il condamne tout ce qui est mal. La gloire de ces évangélistes et la preuve de leur mission est moins d'avoir fait des lois que d'avoir répandu sur la terre l'esprit nouveau des lois nouvelles. Le courage qu'un homme déploie en se tuant me parut alors être sa propre condamnation. Quand il se sent la force de mourir, il doit avoir celle de lutter. Se refuser à souffrir n'est pas force, mais faiblesse. D'ailleurs, quitter la vie par découragement, n'est-ce pas abjurer la foi chrétienne, à laquelle Jésus a donné pour base ses sublimes paroles? Heureux ceux qui souffrent. Le suicide ne me parut donc plus excusable dans aucune crise, même chez l'homme qui, par une fausse entente de la grandeur d'âme, dispose de lui-même un instant avant que le bourreau ne le frappe de sa hache. En se laissant crucifier, Jésus-Christ ne nous a-t-il pas enseigné à obéir à toutes les lois humaines, fussent-elles injustement appliquées? Le mot résignation, gravé sur la croix, si intelligible pour ceux qui savent lire les caractères sacrés, m'apparut alors dans sa divine clarté. Je possédais encore 80 000 francs. Je voulus d'abord aller loin des hommes, user ma vie en végétant au fond de quelque campagne. Mais la misanthropie, espèce de vanité cachée sous une peau de hérisson, n'est pas une vertu catholique. Le cœur d'un misanthrope ne saigne pas, il se contracte. Et le mien saignait par toutes ses veines. En pensant aux lois de l'Église, aux ressources qu'elle offre aux affligés, je parvins à comprendre la beauté de la prière dans la solitude, et j'eus pour idée fixe d'entrer en religion, suivant la belle expression de nos pères. Quoique mon parti fût pris avec fermeté, je me réservais néanmoins la faculté d'examiner les moyens que je devais employer pour parvenir à mon but. Après avoir réalisé les restes de ma fortune, je partis presque tranquille. La paix dans le Seigneur était une espérance qui ne pouvait me tromper. Séduit d'abord par la règle de Saint Bruno, je vins à la Grande Chartreuse, à pied, en proie à de sérieuses pensées. Ce jour fut un jour solennel pour moi. Je ne m'attendais pas au majestueux spectacle offert par cette route où je ne sais quel pouvoir surhumain se montre à chaque pas. Ces rochers suspendus, ces précipices, ces torrents qui font entendre une voix dans le silence, cette solitude bornée par de hautes montagnes et néanmoins sans bornes, cet asile où de l'homme il ne parvient que sa curiosité stérile, cette sauvage horreur tempérée par les plus pittoresques créations de la nature, ces sapins millénaires et ces plantes d'un jour, tout cela rend grave. Il serait difficile de rire en traversant le désert de Saint-Bruno, car là triomphent les sentiments de la mélancolie. Je vis la Grande Chartreuse. Je me promenais sous ses vieilles voûtes silencieuses. J'entendis, sous les arcades, l'eau de la source tombant goutte à goutte. J'entrai dans une cellule pour y prendre la mesure de mon néant. Je respirai la paix profonde que mon prédécesseur y avait goûtée. Et je lus avec attendrissement l'inscription qu'il avait mise sur sa porte, suivant la coutume du cloître. Tous les préceptes de la vie que je voulais mener y étaient résumés par trois mots latins. Fugge, late, tace. Genesta inclina la tête comme s'il comprenait. J'étais décidé, reprit Benassi. Cette cellule boisée en sapin, ce lit dur, cette retraite, tout allait à mon âme. Les Chartreux étaient à la chapelle, j'allais prier avec eux. Là, mes résolutions s'évanouirent. Monsieur, je ne veux pas juger l'Église catholique. Je suis très orthodoxe, je crois à ses œuvres et à ses lois. Mais, en entendant ces vieillards inconnus au monde et morts au monde chanter leurs prières, je reconnus au fond du cloître une sorte d'égoïsme sublime. Cette retraite ne profite qu'à l'homme et n'est qu'un long suicide. Je ne la condamne pas, monsieur. Si l'Église a ouvert ses tombes, elles sont sans doute nécessaires à quelques chrétiens tout à fait inutiles au monde. Je crus mieux agir en rendant mon repentir profitable au monde social. Au retour, je me plus à chercher quelles étaient les conditions où je pourrais accomplir mes pensées de résignation. Déjà, Je menais imaginairement la vie d'un simple matelot. Je me condamnais à servir la patrie en me plaçant au dernier rang et renonçant à toutes les manifestations intellectuelles. Mais si c'était une vie de travail et de dévouement, elle ne me parut pas encore assez utile. N'était-ce pas tromper les vues de Dieu? S'il m'avait doué de quelque force dans l'esprit, mon devoir n'était-il pas de l'employer au bien de mes semblables? Puis, s'il m'est permis de parler franchement, je sentais en moi je ne sais quel besoin d'expansion que blessaient des obligations purement mécaniques. Je ne voyais dans la vie des marins aucune pâture pour cette bonté qui résulte de mon organisation, comme de chaque fleur s'exhale un parfum particulier. Je fus, comme je vous l'ai déjà dit, obligé de coucher ici, pendant la nuit. Je crus entendre un ordre de Dieu dans la compatissante pensée que m'inspira l'état de ce pauvre pays. J'avais goûté aux cruelles délices de la maternité. Je résolus de m'y livrer entièrement, d'assouvir ce sentiment dans une sphère plus étendue que celle des mères, en devenant une sœur de charité pour tout un pays, en y pansant continuellement les plaies du pauvre. Le doigt de Dieu me parut donc avoir fortement tracé ma destinée quand je songeais que la première pensée grave de ma jeunesse m'avait fait incliner vers l'état de médecin, et je résolus de le pratiquer ici. D'ailleurs, au cœur blessé, l'ombre et le silence, avais-je dit dans ma lettre. Ce que je m'étais promis à moi-même de faire, je voulus l'accomplir. Je suis entré dans une voie de silence et de résignation. Le fugé laté taqué du chartreux est ici ma devise. Mon travail est une prière active. Mon suicide moral est la vie de ce canton, sur lequel j'aime, en étendant la main, à semer le bonheur et la joie, à donner ce que je n'ai pas. L'habitude de vivre avec des paysans, mon éloignement du monde, m'ont réellement transformé. Mon visage a changé d'expression. Il s'est habitué au soleil qui l'a ridé, durci. J'ai pris d'un campagnard l'allure, le langage, le costume, le laisser-aller, l'incurie de tout ce qui est grimace. Mes amis de Paris, ou les petites maîtresses dont j'étais le sigisbée, ne reconnaîtraient jamais en moi l'homme qui fut un moment à la mode, le sybarite accoutumé aux colifichets, au luxe, aux délicatesses de Paris. Aujourd'hui, tout ce qui est extérieur m'est complètement indifférent, comme à tous ceux qui marchent sous la conduite d'une seule pensée. Je n'ai plus d'autre but dans la vie que celui de la quitter. Je ne veux rien faire pour en prévenir, ni pour en hâter la fin. Mais je me coucherai sans chagrin pour mourir, le jour où la maladie viendra. Voilà, monsieur, dans toute leur sincérité, les événements de la vie antérieure à celle que je mène ici. Je ne vous ai rien déguisé de mes fautes, elles ont été grandes, elles me sont communes avec quelques hommes. J'ai beaucoup souffert, je souffre tous les jours. Mais j'ai vu dans mes souffrances la condition d'un heureux avenir. Néanmoins, malgré ma résignation, il est des peines contre lesquelles je suis sans force. Aujourd'hui, j'ai failli succomber à des tortures secrètes, devant vous, à votre insu. Genesta bondit sur sa chaise. Oui, capitaine Bluto, vous étiez là. Ne m'avez-vous pas montré le lit de la mère Colas lorsque nous avons couché Jacques? Eh bien, s'il m'est impossible de voir un enfant sans penser à l'ange que j'ai perdu, jugez de mes douleurs en couchant un enfant condamné à mourir. Je ne sais pas voir froidement un enfant. Genesta pâlit. Oui, les jolies têtes blondes, les têtes innocentes des enfants que je rencontre, me parlent toujours de mes malheurs et réveillent mes tourments. Enfin, il m'est affreux de penser que tant de gens me remercient du peu de bien que je fais ici, quand ce bien est le fruit de mes remords. Vous connaissez seul, capitaine, le secret de ma vie. Si j'avais puisé mon courage dans un sentiment plus pur que ne l'est celui de mes fautes, je serais bien heureux. Mais aussi, n'aurais-je eu rien à vous dire de moi.